Peut-être pensez-vous qu'une fois marié, le couple est solide comme un roc et qu'il est inutile d'y passer trop de temps. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mais croyez-moi, c'est difficile. Est-ce que je suis pessimiste ? Non, réaliste. Nos vies quotidiennes sont remplies d'activités et de passions qui peuvent faire courir de grands risques aux amoureux. Nous appelons Aurélie et Joseph, et après une première saison consacrée à la préparation au mariage, nous sommes ravis de vous accueillir dans la saison 2 du podcast « Se marier et durer » consacré à la vie des vrais couples.
Dans ce podcast, nous rencontrons le père Pierre-Marie Castaignos, serviteur de Jésus et de Marie et accompagnateur de couples depuis plus de 20 ans, pour aborder les sujets qui peuvent fragiliser ou consolider l'amour. Cette première mini-série est dédiée à la colère. Difficilement maîtrisable, elle est dans certains cas une indignation nécessaire et dans beaucoup d'autres, la cause de nombreuses blessures. Pour terminer cette série avec une note positive, ce troisième épisode se consacre à la sortie de la colère. Apaiser, réconcilier et utiliser cette colère pour en sortir grandi ensemble. Cela vous semble être un beau projet ? Non, c'est une réelle possibilité. Découvrez-le dans cet épisode.
Bonjour mon père.
Bonjour Joseph, bonjour Aurélie.
Donc pour cette troisième partie du podcast, donc nous avons d'abord vu pourquoi est-ce qu'on se met en colère, ensuite comment est-ce qu'on gère sa colère. Et maintenant vient la question, comment est-ce qu'on sort de la colère ? Et donc, pour cela, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est bon de sortir de la colère ?
Sortir, c'est important de sortir de la colère. On a vu, la colère, c'est une injustice. Et du coup, ce qui fait qu'on est, ça nous enferme dans un statut de victime. Et le statut de victime, je ne sais pas si ce podcast-là ou l'autre, mais le statut de victime est potentiellement une position dans le couple qui est toxique. Donc, sortir de la colère, c'est sortir d'une attitude qui m'enferme dans une certaine toxicité qui me fait reconnaître, et donc qui me fait reconnaître l'autre. S'il y a une victime, forcément, qu'il y a un coupable ou un bourreau. Et donc, c'est dans le couple, c'est moi qui suis victime, c'est toi qui es bourreau. Donc, on met des étiquettes sur le dos. Donc, c'est important de sortir. Parce qu'on ne peut pas rester. Il y a des personnes, mais pas malheureusement, on ne peut pas rester si, on peut rester. Qui sont dans des. Toujours à ressasser les mêmes choses, mais les parents ne nous ont pas donné ça, et regarde comment mon père m'a traité, et regarde même au partage des biens comment il m'a humilié, et puis 10 ans après, 20 ans après, vous avez des gens qui n'ont pas avancé d'un iota. Ben, ça existe. Y en a qui n'acceptent pas, quelque part leur statut de victime leur donne une raison d'être. Mais en faisant ça, ça casse la relation. Oui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Donc, du coup, ça provoque une colère à chaque fois. Ça réactive la colère qu'ils ont sentie quand ils se sont sentis mis de côté, par exemple des colères liées à l'abandon, des blessures d'abandon, etc. Donc, ça réactive le chose. Tu t'en rends compte et personne ne s'est occupé de nous. Et comment celui-ci a réagi envers nous, etc. Et c'est ressassé, ce qui fait que dans la relation, ça ne permet pas de passer à autre chose. Et potentiellement, ça casse la relation. Oui, c'est parce que j'ai fait de mon statut de victime ma raison d'être. Je suis une victime. Ben non, on est tous plus ou moins victimes d'une chose ou d'une autre, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas m'enfermer dans un statut de victime parce que ça, c'est toxique. Et ça, ça casse la relation. Donc, d'où l'importance de sortir de la colère.
Alors, souvent, quand on parle de colère, quasiment immédiatement après, surtout dans des cadres chrétiens, on se dit il faut pardonner. Si on se met en colère, on demande pardon. Mais est-ce que le pardon est nécessaire après toute colère ?
Alors, sauf si, non, je réponds, pour répondre à la question, non, le pardon n'est pas nécessaire après toute colère, en particulier par rapport aux indignations. Je n'ai pas demandé pardon d'avoir levé la voix ou d'avoir mis en colère face à une injustice. Donc, je pense que je n'ai pas demandé pardon pour quelque chose où objectivement tu avais tort. Par exemple, si on parle de la dimension de couple, objectivement, là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Tu mets en danger notre couple, tu mets en danger notre famille, tu te mets en danger toi-même. Ça, je ne peux pas l'admettre. Et ça me met dans des colères. Mais de ces colères-là, je ne demande pas pardon. Parce que tant que l'injustice est là, pour te faire réagir. Alors, il faut parfois changer de stratégie, mais voilà. Donc non, le pardon est pour la colère injustifiée. Injustifiée, vous vous rappelez, hein, les trois points dont on a parlé, c'est l'intention n'était pas juste, l'objet n'était pas juste et la réaction n'était pas proportionnée. Alors, de ça, j'ai à demander pardon. Parce qu'il y a quelque chose de décalé entre la situation et ma réaction.
Et dans le cas d'une indignation juste, est-ce que je peux être quand même amenée à devoir demander pardon pour les actes de colère que j'ai posés ?
Alors, c'est difficile de répondre en général, mais alors c'est vrai que parfois on peut... Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on ne s'indigne pas assez. Moi, je trouve qu'on doit demander pardon pour toutes les indignations qu'on n'a pas faites. Je trouve que c'est là, encore une fois, on est dans un régime chrétien, etc., et que, où on stigmatise la colère, où on en fait, bon, c'est dans les péchés capitaux, pardon, et du coup, tout, vraiment une sorte de culpabilité. Alors, je trouve qu'il y a une, moi, je suis un partisan de revisiter la colère aussi de façon positive, comme quelque chose, comme un moteur qui fait avancer, comme qui aboutit à un monde plus juste. Donc non, pas, après toute colère, on n'a pas demandé pardon. Non. Il y a un discernement à avoir. Oui, le moutarde m'est monté au nez, ou alors ma susceptibilité a été froissée parce qu'on ne m'a pas mis à la place de choix, etc., et que je suis le président de telle association. Oui, bah oui, d'accord, oui. Là, on est dans l'orgueil. Ouais. Bah, on est dans l'orgueil, mais c'est, vous voyez, c'est souvent connexe à autre chose. C'est une colère qui est connexe à autre chose, à un autre péché capital, par exemple, qui fait que, de là, on a demandé pardon, oui.
Je pense connaître la réponse à la question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que la colère peut être apaisée par la vengeance ?
Ah, alors, c'est intéressant de voir la vengeance. Ça, c'est sûr que la réponse est négative. C'est sûr. Pourquoi elle est négative ? Parce que c'est intéressant de voir ça. Pourquoi elle est négative ? Parce que on se dit, si je supprime, si je fais subir du tort à l'autre, ça va apaiser ma colère. En fait, non, parce que l'injustice va pas cesser. Et donc, je crée une autre injustice. Donc, je crée. Ouais, c'est le cycle en fait du mal dans nos vies. C'est le cycle des conséquences du péché originel en nous et autour de nous, qui fait qu'on veut combattre le mal par le mal. Et ce que saint Paul dit, c'est combattre, soyez vainqueurs du mal par le bien. Et donc, et l'amour des ennemis, qui est vraiment au cœur de l'évangile, au cœur du message chrétien. L'amour des ennemis, c'est de dire, je reconnais le mal, mais je refuse je prendrai des moyens qui sont différents. Et moi, je me suis, peut-être on pourra l'aborder avec la communication non violente, mais un moyen qui permet de répondre à une situation injuste sans forcément rentrer dans une dimension, sans rentrer du tout dans une dimension de vengeance.
Mais justement, vous faites une transition parfaite. Comment est-ce qu'on peut sortir de sa colère ?
Difficile. Alors je vois deux aspects. Je vois un aspect plus psychologique et je vois un aspect plus spirituel. Un aspect psychologique, je me suis formé pendant 6 ou 7 stages au moins à la communication non violente. Et qui est une technique psychologique, c'est qui a été créée par Marshall Rosenfeld, qui lui-même a mis en place cette démarche-là, qui consiste à remonter au besoin, c'est-à-dire que de nommer le besoin, c'est-à-dire que j'ai des sentiments, j'observe une situation d'injustice, j'ai des sentiments, par exemple, de colère, j'ai des émotions de colère, j'ai des besoins. Et donc, quel est le besoin dont la colère est le nom ? Quel est le besoin dont l'attitude parfois excessive est le nom ? Est-ce que c'est un besoin de connexion ? Est-ce que c'est un besoin de présence ? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ? Voilà, il y a un besoin. Est-ce que c'est un besoin d'empathie ? Est-ce que voilà, c'est donc je trouve c'est et ensuite on formule une demande par rapport à ce besoin-là. Donc je trouve ça intéressant de rejoindre le besoin, son propre besoin, quand on a une certaine maîtrise, connaissance de soi. Mais en fait, cette colère-là, elle était le nom de quel besoin ? Mais aussi, il y a une dimension spirituelle. Et je trouve que le livre de Job, de ce point de vue-là, est un livre qui exprime, parce que la colère, elle est présente dans la Bible, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de colère dans la Bible. Il y a beaucoup de colère dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de colère, etc. Et on connaît tous le livre de Job, etc., qui s'était même mis en colère contre Dieu. Parce que, d'une certaine manière, le fait d'être croyant, ça nous donne plus d'occasions d'être en colère. Parce que si on croit en un Dieu tout-puissant et qu'il y a une injustice, qu'est-ce qu'il fait face à l'injustice ? C'est, je veux dire, ça, c'est imparable. Ça, c'est quelque chose comme ça, c'est imparable. Donc, plus on est croyant, plus on a de... Et c'est pour ça que les personnages bibliques sont des personnages qui se mettent souvent en colère, et en colère contre Dieu. Et donc, ou comme l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, par exemple, qui s'était mis en colère face à cet hiver 54, etc., quand il avait vu une personne décédée avec son congé de loyer, de renvoi de l'appartement, alors qu'elle est morte dans la rue. Et là, il y a une vraie colère qu'il a. Je pense que ça intéresse. Mais d'en sortir, alors, ça peut être rétablir aussi la justice. La colère est une certaine manière de rétablir la justice. Donc, je trouve de dire, si on a qu'est-ce que je fais pour que la justice, peut-être, dont je suis, l'injustice dont je suis victime ou dont l'autre est victime, peut-être, est rétablir une certaine justice, donc à travers la solidarité, par exemple, on a évoqué l'abbé Pierre. Mais au plan spirituel, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a certaines... Job, il sort de la colère par l'émerveillement. Et les derniers chapitres de Job, il est invité à l'émerveillement. C'est-à-dire il a à regarder la beauté de chaque personne humaine, à regarder la beauté de la création. Et à chaque fois, le Dieu lui dit, mais est-ce que c'est toi qui as fait tout ça ? Non, ce n'est pas moi. Je ne peux qu'être dans une forme d'adoration face à tout ce que tu as créé. Et alors que Job avait mille occasions de se mettre en colère, il s'est sorti de ça par l'émerveillement, et je trouve que c'est quelque chose qui peut aider. Et c'est pas où rétablir la justice ou s'émerveiller, c'est concrètement passer à l'acte et poser des actes qui vont faire que la source de la colère, l'injustice termine, cesse, parce que l'objectif c'est quand même de faire cesser l'injustice. Donc, alors soit en saisissant les tribunaux, soit même en posant des actes, etc. Donc, mais ça s'accompagne en même temps d'une démarche d'émerveillement face, parce qu'il y a une forme de repli sur soi dans la colère. Vous voyez, il y a une forme qui fait que je ne vois plus l'autre comme une personne, je le vois comme un ennemi. Je vois comme la personne, voilà, que je désigne. Je le vois plus comme un frère. On n'est plus membres les uns des autres, comme dit saint Paul. Non, ben, il y a lui, il y a moi, mais il n'y a plus rien entre nous. Et donc revoir l'autre comme une personne. Vous voyez, j'ai été par exemple pendant des années aumônier de prison en Argentine, visiteur puis aumônier de prison pendant 10 ans. Et j'ai toujours là, des situations d'injustice. Vous imaginez qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de la prison entre prisonniers, mais des prisonniers face aux personnes extérieures évidemment. Et j'avais rencontré un certain nombre de victimes. J'avais aspiré à une forme au moins de rencontre. C'est ce qu'on appelle aussi la justice réparative. Alors peut-être pas dans des cas très graves, de revoir l'autre comme une personne. De revoir celui qui peut-être m'a fait du mal, qui m'a agressé, qui a agressé un de mes parents, etc. Mais je n'y suis jamais arrivé. Je ne suis jamais arrivé, alors que c'était des victimes qui étaient profondément enracinées dans la foi, mais qui avaient subi des torts, entre autres les homicides de proches, etc. Mais elles n'ont jamais voulu ni pu rencontrer leur agresseur. Or, là, on voit, c'est des choses... Pour le coup, ce n'est pas le quotidien, grâce à Dieu, les homicides. Mais dans des cas comme ça qui sont extrêmes, je pense qu'on peut les redimensionner à des cas plus habituels, plus classiques de nos colères et des injustices, de revoir l'autre comme une personne, de s'émerveiller. En fait, ton acte ne te définit pas. Ce que tu as commis comme injustice, peut-être c'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, je pense que c'est une des manières de sortir de la colère.
Alors, je pense que dans les deux outils que vous mentionnez, la communication non violente et l'émerveillement face à l'autre, revoir l'autre, sont clairement pas exclusifs l'un de l'autre. Et quelque part, la communication non violente est peut-être aussi un moyen d'arriver à cet émerveillement et à revoir la personne.
Certainement, de se reconnecter aux besoins de l'autre. De quoi l'autre avait besoin, qu'il a mis dans un état pareil, etc. Et du coup, ça veut dire de se décentrer, qui est une attitude très chrétienne, on se descend de soi-même et on va à la rencontre de l'autre. Ça, c'est vraiment le message de l'évangile. Je veux dire, c'est d'être en contact. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et j'aime bien me former très régulièrement sur un certain nombre d'aspects, justement, au plan psychologique. Mais je trouve que c'est très, entre guillemets, catho-compatible comme manière de voir, parce que ça nous permet de À un moment donné, Marshall Rosenfeld, il parle d'aller sur la colline de l'autre. Je me mets à la place de l'autre. Pourquoi, de son point de vue, comment est-ce que je vois les choses? Et c'est toujours très intéressant de faire cet exercice d'exode, on peut dire, intérieur, et d'aller rejoindre l'autre. Et de là où vous êtes, de ce côté-là du bureau, vous n'avez pas la même vue que de celle que j'ai de mon côté. Donc, je me mets de l'autre côté du bureau, et parfois même dans des thérapies, on change les personnes de place pour leur dire, bah, vous voyez quoi maintenant? Et je trouve que ce décentrement est profondément évangélique.
Et peut-être juste pour finir sur cette notion de communication non violente. Alors, compte tenu de la distance et du recul que ça nécessite, est-ce que c'est une technique de sortie de la colère qu'on peut utiliser vraiment au pic de la colère lorsqu'elle est en train d'érupter, ou est-ce que c'est plutôt lorsqu'elle est un peu calmée et peut-être un peu à posteriori de la colère?
C'est vrai que quand on est sous l'emprise de la colère, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on sent qu'à part c'est la colère qui nous possède plus que nous qui la possédons. Je veux dire, on est sous l'emprise. Voilà. Mais c'est après coup que, encore une fois, que le deuxième mouvement ne nous échappe pas. Si le premier nous a submergés, que le deuxième, qui est d'un examen de conscience, de rejoindre son besoin, comme on le voit en communication non violente, de rejoindre le besoin de l'autre, de se mettre à la place d'eux. Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça ou elle a réagi comme ça? Qu'est-ce qui a fait que et c'est tout l'objet, je trouve, et ça mu par la foi, parce que je pense que ça peut tout à fait être lié à la foi, que d'avoir ce regard d'émerveillement, justement, d'un regard de foi que par rapport à l'autre. L'autre n'est pas juste un ennemi, juste quelqu'un qui me fait souffrir, etc. Il a aussi un besoin d'être aimé, de se mettre dans cette attitude-là, quoi.
Y a-t-il des situations dans lesquelles il est nécessaire d'être accompagné pour sortir de la colère?
Oui, quand c'est répétitif. Oui, quand on sent que c'est répétitif, c'est-à-dire oui, quand on voit que ça devient un mode de relation. Et ça ne peut pas devenir. On ne peut pas avoir ce mode. C'est-à-dire, ça ne peut pas le devenir. Ça peut le devenir, mais c'est toxique comme mode de relation. Et tôt ou tard, il y aura une distance. Et avec cette personne-là, et malheureusement, si c'est en couple, je ne pourrais pas faire autrement que de me séparer de la personne, parce qu'on ne peut plus être que dans la colère. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est... oui, de se faire accompagner quand on sent qu'on est submergé, qu'on n'a pas prise, que c'est répétitif, que d'autres nous disent, mais écoute, fais attention, fais plusieurs fois que tu te mets dans des situations comme ça, fais plusieurs fois. Voilà, donc souvent, et c'est là où le côté parfois de péché, parce qu'on avait prise, on avait possibilité de se faire accompagner, mais par orgueil, bien souvent. Souvent par orgueil, ben non, je sais, etc. Ben non, je ne sais pas. Je sais pas, mais du coup je vais pas voir une personne qu'est-ce qu'il va m'apporter, je suis pas fou, etc. Bon, des tas de choses comme ça qu'on se dit qui fait qu'on ne se s'ouvre pas de possibilité à une autre manière de relation.
Merci beaucoup mon père.
Un grand merci Joseph, un grand merci Aurélie.
L'épisode que vous venez d'entendre fait partie d'un podcast consacré au couple et au mariage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Quant à nous, nous vous retrouvons sans plus attendre dans une autre mini-série consacrée à la vie professionnelle ou dans le parcours de préparation au mariage proposé dans la première saison. À très vite !